comprend, les coups mortels sont manifestement un acharnement, une répétition de coups, des choses absolument épouvantables, mais qui laissent à penser que se joue quelque chose d'extrêmement particulier, où la personne visée est quelque chose à qui l'on en veut directement, et donc pas quelque chose de fortuit. Enfin, il y a un ensemble d'éléments qui laissent penser que ce sont forcément des proches.
Bonsoir, 14 ans que les parents de Gaël Fossé attendent une réponse à une question qui a naufragé leur vie et continue à les ronger. Qui a tué leur fille Gaël Fossé un soir d'avril 2007 criblé de 66 coups de couteau à son domicile de Saint-Germain-la-Campagne en Normandie? Pourquoi s'est-on acharné sur cette jeune femme de 22 ans qui avait la vie devant elle? Les indices laissés sur la scène de crime n'ont pour l'instant pas permis de remonter jusqu'à l'assassin. Des suspects ont été interrogés dans cette affaire. L'un d'eux a même été arrêté, mis en examen et incarcéré pendant plusieurs mois, mais cette piste s'est avérée trop fragile pour être réellement concluante. On sait avec certitude que Gaëlle a été tuée par quelqu'un qu'elle connaissait et à qui elle a ouvert la porte. Une personne figurant dans son entourage, mais aucune information digne de ce nom n'a conduit à cet individu. Seul un témoignage pourrait aujourd'hui relancer l'affaire Gaëlle Fossé. Affaire qui sera lundi soir à 21h05 au menu de la nouvelle émission de M6 consacrée au cold case. L'émission Appel à témoins, l'occasion. Espérons-le que quelqu'un se manifeste. Il n'est jamais trop tard en matière criminelle pour qu'un témoin raconte ce qu'il a vu ou entendu.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Ce soir donc dans l'heure du crime, l'assassinat de Gaëlle Fossé, une jeune femme qui en cette journée de printemps 2007 ne répond plus au téléphone et ne se manifeste pas, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Vendredi 27 avril 2007, Jean-Paul et Sylvie Fossé, un couple de pâtissiers installés à Orbec, petite commune du Calvados, attendent patiemment leur fille, Gaëlle. Il est prévu qu'elle passe à 18h à la maison pour aider son frère aîné, Jean-Charles, à rédiger une lettre de motivation. À 22 ans, la jeune femme a quitté le cocon familial depuis 3 ans. Elle vit avec son petit ami, Steven. Ils habitent une maison à Saint-Germain-la-Campagne, un village à 5 km seulement d'Orbec. Le temps s'écoule et pas de nouvelles de Gaëlle. Son téléphone ne répond pas. Steven, le fiancé, qui depuis le début de la semaine est en déplacement professionnel très loin de la Normandie à Saint-Étienne, est également sans nouvelles. Il a essayé 10 fois de joindre Gaëlle sans succès. Sylvie Fossé contacte la famille, les amis, mais personne n'a vu Gaëlle. Les heures passent et l'inquiétude des parents grandit. Ils pensent évidemment à un accident. Aux alentours de 21h, Jean-Paul Fossé décide de se rendre à Saint-Germain-la-Campagne. Il arrive devant la maison et est immédiatement rassuré. La voiture de sa fille est là. Il y a même de la lumière dans sa chambre. Le père aperçoit alors Johan, un pompier volontaire, ami de Steven, le fiancé de Gaëlle. Les deux hommes frappent à la porte. Ils entendent le chien de la maison aboyer, mais Gaëlle, elle, ne répond pas. Jean-Paul Fossé a le double des clés, il ouvre. Jean-Paul Fossé allume la lumière au rez-de-chaussée. Il constate que le chien du couple, un Rottweiler baptisé Rambo, a été enfermé dans un cagibi. Il se dirige alors vers le salon. La jeune femme est allongée sur le sol. Le corps est en partie dénudé. Il y a du sang. Gaëlle a été poignardée. L'autopsie dira qu'elle a reçu pas moins de 66 coups de couteau. Les 4 premiers ont été portés dans le dos alors que la victime ne voyait pas son agresseur. Elle a été attaquée à un moment où elle ne s'y attendait pas. Un seul coup a suffi à la tuer. Malgré cela, le meurtrier s'est acharné sur la malheureuse. Un déferlement de violence, des plaies au thorax, au crâne, au visage, des blessures fatales que Jean-Paul Fossé est incapable de discerner dans la semi-pénombre lorsqu'il tente de s'approcher du corps. Johan, le pompier, lui barre la route. Il lui demande de ne pas le toucher et de sortir. Le pompier reste seul alors avec la victime inanimée et couvre le corps avec un linge, ce qui surprendra le père. Les gendarmes sont alertés. Ils débarquent rapidement dans la maison de Saint-Germain-la-Campagne. L'enquête démarre, les gendarmes partent à la chasse aux indices sur la scène de crime. Ils vont aussi se lancer dans une course intense aux auditions. Gaëlle a été tuée dans un petit village où tout se voit et où tout se sait. Les investigations devraient donc être rapides. Les enquêteurs savent que Gaëlle, dont le corps a été retrouvé chez elle le vendredi 27 avril, a été tuée la veille, jeudi 26 avril sans doute, en fin de soirée. Elle avait eu auparavant en ligne son fiancé Steven avant que son portable ne réponde plus. Gaëlle était d'un naturel méfiant et n'aurait jamais ouvert la porte à un inconnu. Elle était probablement à l'étage en train de regarder la télé. La lumière de cette chambre était restée éclairée quand elle a eu de la visite. Apparemment, elle a partagé quelques verres avec son visiteur du soir. Elle avait 0,81 g d'alcool dans le sang. Des verres ont été saisis dans le salon. Les gendarmes notent que les lieux, le couloir et une partie du fameux salon ont été nettoyés avec un produit de ménage, de l'assouplissant pour le linge, une bouteille trouvée sur place. Nettoyage qui a probablement effacé des traces et des indices en allumant la lumière chez sa fille. Son père avait immédiatement noté que le sol du couloir était humide et il avait distingué des traces de pas. L'arme du crime est un couteau effilé, une arme blanche qui demeure introuvable. En partant, l'assassin a emporté les trousseaux de clés du couple et il a pris soin de refermer la porte derrière lui. En attendant les relevés d'empreintes et les expertises ADN, les gendarmes procèdent à des auditions en ciblant en priorité l'entourage de la victime. Steven, le compagnon, effondré après la mort de Gaëlle, est très rapidement mis hors de cause. La nuit du meurtre, il se trouvait à 700 km de là, à Saint-Étienne, dans la Loire. Pour son travail, cet installateur de meubles de supermarché n'était donc pas en Normandie ce soir-là. Les gendarmes s'intéressent aussi à Johan, le pompier volontaire de la région d'Orbec, croisé devant la maison du crime par le père de la victime. Jean-Paul Fossé avait trouvé son comportement troublant lors de la découverte du corps. Deux jours avant le meurtre, il aurait rendu visite à Gaël. Johan, un garçon gentil, serviable et dévoué, selon Steven, le compagnon, Johan est interrogé. Mais cette piste ne donne rien, ce témoin est relâché. Il sera, quelques années plus tard, placé à nouveau en garde à vue par les gendarmes de la section de recherche de Rouen, mais sans résultat. Le 4 mai, c'est au tour d'une amie proche de Gaël Fossé d'être interrogée une première fois. Elle se serait disputée avec sa copine avant le crime, après lui avoir déclaré qu'elle voulait coucher avec son copain. Le 29 mai, la jeune femme est placée en garde à vue. Elle reconnaît être passée chez Gaël le mercredi soir, soit la veille du meurtre, mais aucune charge n'est retenue contre ce témoin. Elle est relâchée. 6 mois vont ainsi s'écouler avant qu'un suspect, cette fois, retienne vraiment l'attention des gendarmes. C'est un ami du couple, il leur rendait de fréquentes visites, une trace ADN le désigne. 4 empreintes ADN ont pu être prélevées sur le pantalon de jogging de la victime, un vêtement qu'elle utilise pour dormir, le sien, celui de son compagnon Steven et 2 autres ADN inconnus dont l'identification va prendre davantage de temps. Un premier résultat désigne un voisin et ami du couple. Il habite à seulement 2 maisons du lieu du crime. Il avait été entendu comme témoin par les enquêteurs. 6 mois après le meurtre, le 6 octobre 2007, Grégory E, 22 ans, est interpellé et placé en garde à vue. Lors de ses premières déclarations, il indique tout bonnement ne pas connaître Gaël Fossé. Les gendarmes ne sont pas convaincus par ses propos. Grégory E, originaire d'Orbec, a fréquenté la même école que Gaël Fossé, de la maternelle jusqu'au CM2. Mais surtout, cet homme est un ami du compagnon de la jeune femme. Il se rend souvent chez le couple pour jouer à la PlayStation. Les choses se corsent pour Grégory E, qui ne peut pas fournir d'alibi pour le soir du meurtre. En outre, alors qu'il était en période d'essai dans une entreprise, il ne s'est pas rendu à son travail le lendemain du crime. Un témoin retrouvé par les gendarmes affirme avoir vu l'individu à 2 reprises, le vendredi 27 avril devant la maison de Gaël. À la 3e audition, Grégory E reconnaît qu'il connaît le couple mais nie avoir tué la jeune femme. Le 8 octobre, il est mis en examen pour assassinat et écroué. Grégory E, qui n'a cessé de démentir toute implication dans le crime, va rester 19 mois en détention provisoire. Il va être relâché, faute d'éléments confondants, et placé sous contrôle judiciaire. Son ADN est sur le pantalon de Gaël, mais pour son avocat, Maître Philippe Lagarde, il s'agit d'un ADN de contact. Le jeune homme étant souvent chez le couple pour jouer à la console, boire un verre ou fumer un joint. « Mon client n'avait aucune raison de vouloir tuer cette jeune femme », ajoute l'avocat qu'il présente son client comme quelqu'un ayant fait certes des déclarations maladroites, mais ces déclarations ne justifieraient en aucun cas un séjour en prison. La libération de Grégory E est un coup dur pour les parents de Gaël, persuadés que le jeune homme était impliqué dans la mort de leur fille. L'ADN ne suffit pas à établir la vérité, d'autant plus que la quatrième trace qui restait inconnue est donc susceptible de faire rebondir le dossier. Cette trace va s'avérer décevante. Il s'agit de l'ADN d'un employé des pompes funèbres de Bernay qui avait manipulé le corps. L'affaire, après la libération de Grégory E., le dossier va s'enliser, l'enquête va se promener de juge en juge sans apporter le moindre rebondissement ou un élément nouveau. Les parents vont avoir le sentiment d'être abandonnés. Le samedi 26 avril 2014, date anniversaire de la mort de Gaël, tué de 66 coups de couteau, les parents organisent une marche blanche dans leur village, à Orbec. Depuis toutes ces années, Jean-Paul et Sylvie Fossé, mais aussi le frère de la victime, Jean-Charles, vivent dans le souvenir de la disparue. À cette époque, 6 juges d'instruction entre Bernay et Évreux se sont déjà succédés dans le dossier. Nous avons longtemps fait confiance à la justice, mais là, ras-le-bol, depuis 3 ans, rien ne bouge. Que font les enquêteurs? Ont-ils interrogé les bonnes personnes? On ne peut quand même pas massacrer quelqu'un en toute impunité, s'exclament exaspérés les parents. Des parents perdus qui créent une page Facebook et lancent une pétition sur les réseaux sociaux. Sylvie Fossé adresse même une lettre à l'assassin inconnu de sa fille. « En assassinant Gaël, vous nous avez détruits. Tout ça, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que Gaël vous avait fait ?» Au journal Paris Normandie, elle explique « Je crains que le dossier ne soit clôturé faute d'éléments probants. C'est pour cela que j'ai écrit cette lettre de colère. » Une mobilisation qui permet de réveiller le dossier. La juge d'Évreux, qui reprend l'affaire, multiplie en ces années 2016-2017 les actes d'instruction. Des témoins sont réentendus. Grégory E., le principal suspect, âgé alors de 31 ans, est placé sous contrôle judiciaire, est à nouveau interrogé. Le pyjama de la victime, principale pièce à conviction sur laquelle ont été prélevés des ADN, est une nouvelle fois analysé en utilisant des techniques nouvelles. Ce vêtement, conservé en mauvais état, semble de plus en plus délicat à exploiter. Un nouvel ADN partiel est toutefois isolé, mais ne va pas permettre de faire avancer le dossier. En 2018, la juge ordonne encore une série d'auditions, de quoi redonner un peu d'espoir à ses proches qui ont souvent pensé qu'ils étaient oubliés. La procureure d'Évreux, Dominique Puechmaille, s'interdit alors de commenter les investigations en cours. Elle assure simplement que le dossier Gaël Fossé n'est pas du tout refermé. Comment donc relancer cette affaire si ce n'est grâce à un témoignage? Seule chance pour les enquêteurs de mettre enfin un nom et un visage sur l'assassin. Au fil des années, les enquêteurs n'ont pas trouvé la clé de l'assassinat de Gaël Fossé. Le suspect numéro 1 a été libéré, les autres témoins importants n'ont jamais été confondus. Pas moins de 600 personnes ont été entendues, largement donc au-delà du cercle des connaissances de Gaël Fossé et de son compagnon, Steven. Les gendarmes restent convaincus que c'est pourtant dans cet environnement proche que se cache le meurtrier de la jeune femme. Un homme suffisamment déterminé pour l'avoir attaqué par surprise dans le salon, puis s'être acharné sur elle avec une rare férocité, un acte de colère intense ou de jalousie profonde. Le chef de la section de recherche de la gendarmerie de Rouen, le lieutenant-colonel Thierry Jourdain, est persuadé qu'un témoignage inédit pourrait faire rebondir l'affaire. Il se peut que des voisins aient omis de nous faire part d'un point de détail, mais qui, mis bout à bout, peut amener à débloquer une situation, dit-il. Le père de Gaël émet également le vœu que ce mur du silence s'écroule. J'espère que certains auront le courage de parler. Les parents de Gaël, Jean-Paul et Sylvie Fossé, son frère Jean-Charles, son ancien compagnon Steven, attendent donc ce signe qui pourrait les aider à faire un deuil jusqu'à ce jour impossible. Il faut qu'on arrive à savoir qui a fait ça, pourquoi ça a été fait comme ça, explique Steven. Il y a des gens qui savent, c'est sûr, alors parlez.